Du lundi 12 au vendredi 16 mai 2003, ascension du mont Kenya, 4985 mètres. En me levant, je scrute l'horizon par la fenêtre de la chambre de l'auberge où nous avons passé la nuit. Le mont Kenya est là, en face de moi. Je suis ébloui par le dégradé de couleurs. En bas du vert, au milieu du gris, en haut du blanc. De la forêt à la neige en passant par la roche, je contemple cette montagne. Est-ce un pari insensé? Un défi de plus? Un défi de trop? Je me pose la question. En juillet dernier, en Espagne, lorsque nous avons atteint le sommet du Mongo avec Mebarek et Thomas, nous avons réalisé que nous pourrions partager ce goût pour la montagne avec nos coéquipiers. Nous rêvions de grimper plus haut, de leur faire découvrir l'ivresse de l'altitude. À chaque fois, nous tentions le coup sans être sûrs d'y arriver. Nous avions pris la décision de faire demi-tour en cas de danger météo ou au moindre risque inutile. Ces ascensions réussies ont été des moments forts, des moments clés de notre aventure. J'ai l'impression que nous abordons le mot Kenya différemment. C'est le dernier sommet sur notre parcours. Ce n'est pas le plus haut. Douglas et Martin sont en bonne forme physique. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas atteindre le sommet. Je sais pourtant que chaque montagne reste imprévisible. Trop de gens sont morts inutilement, par seul désir de relever un défi. Je me rappelle les mots d'un randonneur rencontré sur le Kilimandjaro. Le mont Kenya est plus difficile. La partie finale demande quelques notions d'escalade. Last but not least. J'espère que nous avons fait le bon choix et que nous n'embarquons pas Douglas et Martin dans une aventure trop risquée. Martin vient de se réveiller, il me demande. Que fais-tu ? J'observe le mont Kenya depuis la fenêtre. Quelle est belle cette montagne. Tu veux venir voir ? Il se rapproche de moi. Je lui prends la main droite, la pointe vers le mont Kenya et en dessine les contours. Tu sais, je suis content de partir marcher sans les tandems. Ces derniers jours m'ont laissé une empreinte indélébile sur les fesses. Monter en haut de cette montagne, c'est quelque chose de magique pour moi. Pourquoi ? Au pied du mont Kenya vivent quatre ethnies, les Kikuyu, les Ambu, les Tarka et les Kamba. Toutes pensent que les dieux qu'ils vénèrent logent au sommet. Je vais pouvoir vérifier par moi-même si c'est vrai. Peut-être même trouverai-je des traces. Nous commençons à faire les sacs. Vêtements chauds, duvets, protection contre la pluie et la neige, bâtons de marche. Notre attirail est composé du strict minimum. Les porteurs n'auront qu'une sacoche d'une dizaine de kilos par personne. Nous nous permettons le luxe d'emporter une petite bouteille de vodka pour les coups durs. Notre guide, Castol, cinq porteurs et un cuisinier nous retrouvent à l'entrée du parc national du mont Kenya. Les formalités accomplies, nous nous engageons dans la végétation dense qui nous entoure. Le chemin est digne d'une allée forestière. Nous avançons d'un bon pas. Les porteurs nous ont rapidement dépassés. Leur allure et leur chargement, la nourriture et le matériel de cuisson principalement, nous rendent humbles face à l'effort fourni. Nos coéquipiers marchent bien et apprécient ce contact privilégié avec la nature. Tandis que je le guide, Martin me raconte une anecdote amusante. Au début du XIXe siècle, un explorateur, le docteur Johann Ludwig Krapf, voyagea de la côte jusqu'à l'intérieur des terres. En 1842, il atteignit Kwitu, village peuplé par les Kamba. Il y fit la connaissance d'un grand chef, Kivoy. Un matin, en se réveillant, le docteur Krapf vit en direction de l'ouest une grande montagne. Il demanda au chef le nom du sommet. Le chef lui répondit en montrant du doigt la montagne. « Kima Kinia !» L'Allemand en déduisit que la montagne s'appelait Kenya, Kinia. Or, le chef indiquait avec son doigt les autruches, Kinia, qui était non loin de là. De retour en Europe, le docteur Krapf annonça qu'il avait découvert le mont Kenya et le pays qui porte son nom. C'est pourquoi nous foulons aujourd'hui la montagne des Autruches dans le pays des Autruches. Douglas et Jean-Christophe ont été rattrapés par deux filles. Anne est canadienne, Loïs est une étudiante kényane. Toutes les deux se sont rencontrées en cherchant un guide. Ils discutent devant nous. Nous atteignons en fin d'après-midi Met Station, le premier refuge, situé à 3050 mètres d'altitude. Douglas et Martin découvrent pour la première fois la fraîcheur qui s'installe pendant la nuit. Quand nous repartons, Les courbatures se font sentir. Nous faisons face à une pente prononcée. Le chemin est boueux et parsemé de pierres. Aujourd'hui, c'est moi qui guide Douglas. Il n'est pas rassuré. Il a du mal à sentir le terrain qui se déroule sous ses pieds. La crainte du déséquilibre et de la chute l'empêche d'avancer. J'essaye de l'aider, de le rassurer, en lui décrivant les obstacles au sol. La progression est lente. Il commence à sentir la rareté de l'oxygène. Mes narines ne suffisent plus pour inspirer, je dois utiliser la bouche. Chaque pas lui est difficile. La végétation change progressivement. Le monde végétal disparaît peu à peu et fait place à un environnement minéral. Cette transition est difficile pour nos deux équipiers. Ils doivent s'adapter à un terrain alternant pierre et boue. Cela se simplifie quand, sur la fin, nous ne marchons plus que sur des pierres. Ça leur est plus facile que de ne pas savoir sur quoi ils posent le pied. Lentement mais sûrement, nous arrivons à rejoindre Mackinder's Hut, le refuge situé à 4200 mètres. De là, nous pouvons voir pour la première fois les trois sommets du mont Kenya. Point Batian, 5199 mètres, Point Nelion, 5099 mètres, et Point Lenana, 4985 mètres. Entre les deux premiers se trouve une très belle cascade de glace. Seuls de bons alpinistes peuvent tenter ces deux aiguilles. Lenana est accessible sans matériel d'escalade. Sur la droite, détaché, se trouve Point John. Il semble taillé dans une pierre sombre qui lui donne un aspect inquiétant. La neige n'est plus très loin. Demain, nous allons la fouler. La nuit est courte. Chacun a du mal à dormir à cette altitude. Au moment où le sommeil nous rattrape, Castol nous réveille. Il est 5 heures du matin. Le petit déjeuner est rapidement avalé. Castol et Cyrus, l'assistant guide, nous accompagneront au sommet. Les autres porteurs resteront au refuge. Rapidement, nous nous retrouvons sur un long pierrier. Les pierres glissent en arrière. Nous devons redoubler d'efforts pour avancer. Douglas s'est ressaisi et marche à un bon rythme avec Jean-Christophe. C'est au tour de Martin d'avoir du mal à avancer. J'essaye de lui faire oublier l'effort en lui parlant d'autre chose. Une idée me vient. Nous allons inventer une histoire ensemble. Je vais la commencer. Quand je m'arrête, c'est à toi de créer la suite et ainsi de suite. On en oubliera l'effort que l'on fournit. Ok. Depuis le Maroc, les contes ne me quittent pas. Dès que je peux, j'essaye de mettre en scène sous forme de petites histoires ce que nous vivons, ce que nous découvrons. Pour la première fois, nous sommes deux à l'imaginer. The Story of the Lonely Buffalo. L'histoire du buffle solitaire prend naissance. Elle a pour cadre les pentes que nous gravissons. L'histoire n'est pas terminée. L'inclinaison est de plus en plus raide. Nous ne pouvons plus parler. Toute notre attention est concentrée sur ce pas qu'il faut faire. Martin a besoin de faire de plus en plus de pauses. Il me dit alors « Je regrette, ma chère noisette. C'est trop difficile. Rouler à tandem est plus facile. Je ne sais pas comment vous faites, toi et Jean-Christophe. Vous ne semblez jamais fatigué. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu te trompes. Je profite aussi des pauses pour récupérer, j'en ai besoin. Nous avons pédalé plus de 10 000 km ces 11 derniers mois. C'est pour cela que nous sommes en forme. Prends ton temps pour avancer. On s'arrêtera aussi souvent que nécessaire, nous y arriverons. Le temps est parfait, pas de nuages à l'horizon. Je guide désormais Martin de derrière. Je mets ma main sur son dos pour accompagner ses mouvements. J'appuie plus d'un côté ou de l'autre en fonction des virages à prendre. Douglas et Jean-Christophe sont désormais loin devant nous. Les pierriers sont des terrains relativement faciles pour les aveugles, car d'un pas à l'autre, les pieds retrouvent le même type de support. Nous venons de rejoindre un col. Douglas et Martin touchent la neige pour la première fois. Leur réaction ne se fait pas attendre. « C'est froid !» Cyrus vient de sortir un piolet. Il commence à tailler des traces dans la neige dure. Nous nous suivons en file indienne. Douglas et Martin gardent une main sur notre épaule et l'autre sur notre hanche. Leurs pieds doivent trouver les entailles dans la neige avant de s'y poser. La pente est relativement exposée. Je consacre toute mon attention à rester bien placé derrière Martin pour pouvoir le retenir au cas où il glisserait. Les pas sont lents. Les respirations se font entendre. L'oxygène se raréfie et il faut adapter notre souffle. Nous avons de la chance, personne n'a le mal de l'altitude. Nous continuons à faire des pauses régulières pour reprendre notre respiration et nous acclimater. Le piolet taille toujours la première empreinte, nos pieds suivent. Au bout de 2 heures dans la neige, je me retrouve devant un rocher d'un mètre à escalader. Douglas et Jean-Christophe sont déjà passés. Je demande à Martin de rester en bas, le temps que j'analyse la meilleure façon de le grimper. Je me hisse. En posant les genoux en haut, j'entends « Hourra, bravo !» Je relève la tête, Jean-Christophe est en train de féliciter Douglas. Le sommet se trouve à quelques enjambées. Je tends le bras à Martin pour l'aider à se hisser. Nous rejoignons nos amis et nous embrassons. Douglas ne dit rien. Il s'est assis et semble méditer. Martin plaisante de ne pas voir de traces de Dieu. Le froid nous chasse trop vite. Castol aperçoit des nuages qui se dirigent vers nous. Il risque de pleuvoir dans quelques heures. Il est temps de se remettre en marche. La première partie de la désescalade se fait sans trop de problèmes. Dans les passages difficiles, je descends en premier. Martin me suit de quelques mètres, guidé à la voix. Je me positionne toujours pour pouvoir arrêter sa chute si cela devait arriver. Je me retourne face à la pente. Je descends 4 petites marches comme une échelle. Martin descend un peu trop vite. Son pied dérape sur la deuxième. Tout son corps s'affaisse. Debout sur un petit rebord, j'ai juste le temps de décaler mon pied droit pour enrayer sa chute. Je plaque ses épaules contre la neige, il s'est arrêté. Vite, il reprend son équilibre à mes côtés. Il n'a pas eu le temps de se rendre compte du danger. Je regarde à mes pieds 300 mètres de pente qu'il aurait pu dévaler sous mes yeux en quelques minutes. Je suis terrifié à l'idée de ce qui aurait pu se passer. Nous redoublons d'attention sur la neige. Quel plaisir d'atteindre le pierrier qui avait été si difficile à gravir. Tout le monde laisse éclater son bonheur d'être arrivé en haut. Je n'arrive pourtant pas à m'ôter de la tête ce qui a failli se passer. Je suis heureux aussi, mais conscient des risques que nous avons pris. Je médite dans ma tête. Est-ce que ça valait vraiment le coup de prendre tous ces risques? Je sens Martin débordé d'énergie. Accroché à mes épaules, il me pousse pour aller plus vite. J'accepte le défi. Nous commençons à courir tous les deux dans un pierrier, faisant glisser sous nos pas les cailloux. À chaque fois, nous tombons et nous laissons glisser quelques mètres sur les fesses. Le jeu est amusant. Nous arrivons vite au refuge. Un bon repas nous y attend. Je commence à écrire sur papier l'histoire du buffle solitaire inventé avec Martin lors de la montée. Le sommeil nous cueille avant la fin. Le retour au point de départ se fait sous la pluie. Nous devons redoubler de vigilance pour ne pas glisser. Ce serait bête que quelque chose arrive maintenant. J'adapte mes enjambées à celles de Douglas. Souvent, il préfère que je le guide en tenant l'une de ses mains. L'autre tient un bâton. À la voix, je rectifie ses trajectoires pour lui faire éviter les flaques, les passages boueux, les obstacles. Un peu plus à droite. Fais un long pas vers l'avant. Fais de petits pas. Attention à la pierre. De retour à Med Station, nous y passons notre dernière nuit. En rédigeant le journal de bord avec Douglas, je lui demande ses impressions au sommet. Pour la première fois, il s'ouvre à nous, exprime ses sentiments et ressentis. J'ai atteint un sommet où peu de personnes se sont aventurées. J'en suis très fier en tant que Kényan et non-voyant. La montagne est vraiment un lieu de paix. Il nous aura fallu faire beaucoup d'efforts pour y arriver, nous dépasser, tester notre volonté. C'est ce qui est nécessaire dans la vie pour réaliser de grandes choses. Ce parcours à tandem, puis en montagne, je le fais à la recherche de la paix. Je me rends compte qu'elle ne vient pas forcément d'elle-même. Il faut être déterminé et se battre pour la rendre possible. Je me rends compte que, si chacun faisait un effort, le monde pourrait ressembler à ce lieu. Pour moi, la vie n'a de sens que dans les choses extraordinaires que nous pouvons faire. Je viens d'accomplir un exploit, j'en suis très heureux. Douglas a ses motivations et ses convictions. Il prend au sérieux et à cœur tout ce qu'il fait. Il a souvent du mal à en sortir pour rigoler un coup. Martin est tout l'opposé. C'est intéressant de voir comment une expérience vécue à 4 peut être ressentie de façon totalement différente par chacun. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par un bruit sourd. Douglas est affolé. Debout, au milieu de la cabane refuge, il tremble. Je le rejoins. Que s'est-il passé? J'ai voulu sortir pour aller aux toilettes. J'ai entendu un bruit d'animal venant dans l'endroit vers lequel je me dirigeais. Je suis rentré en courant et j'ai claqué la porte. Je pense que c'est un buffle qui a foncé contre le refuge. Une attaque de buffle? Jean-Christophe, Martin et moi tendons l'oreille. Rien. Jean-Christophe se rapproche de la porte, toujours rien. Il l'ouvre et observe l'extérieur à l'aide de sa lampe frontale. Il se retourne. Rien en vue. Douglas se calme. Nous ne saurons pas si c'était un buffle ou un autre animal. Le choc avec la cabane n'aura pas laissé d'autres traces que ce bruit sourd dans notre mémoire.